VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Abdourahmane Dia, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 2 janvier. Bonne et heureuse année 2017 au sommaire ce soir.
Le gouvernement congolais salue la signature de l'accord du 31 décembre et annonce l'abandon des poursuites contre certains prisonniers politiques.
Les poursuites contre M. Roger Lumbala pour participation à une insurrection armée, le M23, ont été abandonnées. Il en est de même pour M. Antipas Moussa Nyamwisi, poursuivi pour des faits similaires.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC.
Premier procès à Paris dans l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, devait être jugé à partir d'aujourd'hui, mais il a demandé un report.
Fermeture de deux radios privées en Gambie où le président Yahya Jammeh refuse toujours de reconnaître sa défaite un mois après la présidentielle.
Au moins 7 morts et 17 blessés dans un double attentat à Mogadiscio, capitale somalienne.
Et au moins 30 morts et 25 blessés dans un attentat à Bagdad alors que le président français François Hollande est en visite en Irak.
L'économie et les sports, après ce journal, tout de suite dans ce journal.
Le gouvernement congolais salue la signature de l'accord du 31 décembre entre la majorité présidentielle, le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution. Et concernant la libération des prisonniers politiques, son porte-parole Lambert Mende annonce l'abandon des poursuites contre certains et explique pourquoi le cas Moïse Katumbi n'a pas été traité. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les poursuites contre M. Roger Lumbala pour participation à une insurrection armée, le M23, ont été abandonnées. Il en est de même pour M. Antipas Moussa Nyamwisi, poursuivi pour des faits similaires. Ils peuvent donc revenir librement en République démocratique du Congo en vertu de cette décision du parquet. C'est aussi le cas de M. Floribert Anzuluni, en fuite à l'étranger. Quant à M. Moïse Monidela, incarcéré après avoir été convaincu d'actes de rébellion et d'incitation à la violence, il bénéficiera également d'une mesure d'abandon de poursuite judiciaire. Parmi les trois autres cas dits emblématiques, celui de M. Diomine Dongala, condamné pour viol sur mineur, a posé un problème de conscience. Tous les cas pour lesquels le parquet a pu trouver une solution rapide sont des cas dans lesquels l'État est celui qui a subi le préjudice. Mais le cas de M. Katumbi, le cas de M. Muyambo, vous avez des problèmes d'escroquerie, de spoliation, des biens privés. Quand c'est des privés, le parquet a besoin de plus de temps.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
En RDC, toujours au moins 6 personnes ont été tuées dans le territoire d'Irumu, en Ituri, dans 2 attaques à l'arme blanche attribuées aux rebelles ADF Nalu. Selon des sources de la société civile, les ADF avaient tué la semaine dernière 14 personnes lors d'attaques contre 2 villages de la région.
Le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable, devait être jugé à partir d'aujourd'hui à Paris, mais il a demandé un report. Arzouma Compaoré.
C'est le premier procès en France dans l'affaire des biens mal acquis qui porte sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines en France par plusieurs dirigeants africains. Ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu fin juin vice-président de Guinée équatoriale par son père, le président Obiang, Théodorin n'était pas personnellement présent à la barre. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Le procès devrait durer jusqu'au 12 janvier. Selon ses avocats, les délais sont beaucoup trop courts et non conformes à la loi. Il demande qu'il puisse bénéficier du temps raisonnable pour organiser sa défense. L'enquête, ouverte après des plaintes de l'association Sherpa et Transparency International, a mis à jour le patrimoine de Théodorin Obiang, notamment un immeuble avenue Foch, estimé à 107 millions d'euros et plusieurs voitures de luxe et de sport, tandis que la majorité des équato-guinéens vivent sous le seuil de la pauvreté.
Les autorités gambiennes ont fermé 2 stations de radio privées sans fournir de motifs. Les explications de Dili Diko.
Dimanche soir, la radio communautaire Teranga FM a cessé d'émettre. Selon un de ses employés s'exprimant sous couvert d'anonymat, quatre agents de la NIA, l'agence gambienne du renseignement, et un policier en uniforme sont venus à la radio dimanche après-midi vers 14h30 heure locale. Ils ont demandé au personnel d'arrêter d'émettre immédiatement. La même source a affirmé que l'instruction avait été donnée par le directeur général de la NIA, Yankuba Badjie, et qu'à l'heure, la raison de cette décision est inconnue. Émile Touré, président de l'association de la presse, a confirmé la fermeture lundi d'une autre station privée, Radio Hilltop. Teranga FM, maintes fois réduite au silence depuis sa création en 2009, est une radio populaire en Gambie en raison de sa traduction quotidienne en langue nationale des nouvelles publiées par les journaux gambiens. Rouverte sous conditions en 2011, Teranga FM, dont les journalistes font souvent l'objet d'enquêtes et de procès, avait été autorisée à reprendre ses activités, mais avec l'interdiction d'aborder les sujets évoqués par la presse privée.
Et le président gambien Yahya Jammeh, qui conteste toujours sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow, a estimé que la CEDEAO lui avait fait une déclaration de guerre en affirmant envisager tous les moyens pour le pousser à quitter le pouvoir. Dans ses vœux du nouvel an, il a aussi exclu de participer à toute négociation avec l'organisation ouest-africaine en raison de sa partialité, selon lui, et réitéré sa demande d'annulation de l'élection du 1er décembre.
Au moins 17 morts et 17 blessés. 7 morts, pardon, et 17 blessés dans l'explosion de deux véhicules piégés près de l'aéroport international de Mogadiscio, la capitale somalienne. Les explications de Timothée Donangmaï.
La première explosion a eu lieu en milieu de journée à un poste de contrôle des forces de sécurité. Un second véhicule a alors franchi à toute vitesse le poste de contrôle avant d'exploser devant l'hôtel Peace en face de l'aéroport de Mogadiscio. Diverses sources font état de 4 civils et d'un soldat tué, de même que 2 kamikazes qui ont mené les attaques revendiquées par Al-Shabaab. C'est la seconde fois que le groupe islamiste fait usage de la tactique de 2 véhicules piégés, la première explosion visant à semer la panique et faciliter la seconde, dont le but est de faire le maximum de victimes. Plusieurs maisons se sont effondrées et l'hôtel a été sérieusement endommagé, rapporte un témoin joint par la VOA. Selon un responsable municipal de Mogadiscio, des efforts sont en cours pour retrouver des personnes qui pourraient être prises au piège sous les décombres.
Un magistrat du Conseil d'État égyptien s'est suicidé ce lundi alors qu'il était détenu dans le cadre d'une affaire de corruption au niveau de la plus haute juridiction administrative du pays, a annoncé son avocat. Des sources judiciaires et de sécurité ont confirmé l'information. Wael Chalabi, secrétaire général du Conseil d'État, avait été arrêté dimanche pour être interrogé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent à présent, au moins 30 morts et 25 blessés à Bagdad dans un attentat à la camionnette piégée sur un marché. Alors que le président français François Hollande est en visite en Irak, les détails avec Michel Joseph.
Le kamikaze a déclenché l'explosion de son véhicule dans un marché de légumes de Sadr City, quartier chiite de l'est de Bagdad. Plusieurs des victimes étaient des ouvriers journaliers attendant des offres d'emploi. En visite en Irak, où il a rencontré son homologue irakien Fouad Massoum, le premier ministre Haider al-Abadi, ainsi que les soldats français, le président français François Hollande s'est exprimé sur la menace du terrorisme.
Nous avons un ennemi commun. C'est le terrorisme, c'est Daesh, c'est le fondamentalisme. Et cet ennemi, nous devons le traquer là où il est, sur un territoire, en Irak, en Syrie, mais également bien comprendre les liens qui existent entre ce groupe terroriste et un certain nombre d'individus qu'il manipule et qui organisent des attentats dans de nombreux pays.
Le président français, François Hollande, s'exprimant à Bagdad.
En Turquie, l'identification des victimes de l'attentat dans une boîte de nuit d'Istanbul pendant le Nouvel An se poursuit. Selon les médias turcs, 27 étrangers figurent parmi les 39 personnes abattues et la majorité de ces étrangers viennent de pays arabes. L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique qui dénonce l'intervention militaire de la Turquie en Syrie. L'auteur de l'attaque est toujours en fuite.
Le président américain Barack Obama passera le témoin à son successeur Donald Trump le 20 janvier prochain. Mais la semaine prochaine, il fera ses adieux dans un discours qu'il prononcera depuis son fief de Chicago. Âgé de 55 ans, Barack Obama dit dans un tweet qu'être président a été le privilège de sa vie. Je serai à vos côtés en tant que citoyen, a-t-il conclu.
Un Français qui était parti combattre en Syrie pour l'organisation État islamique a été condamné aujourd'hui à 10 ans de prison. Nicolas Moreau, 32 ans, a passé 18 mois en détention provisoire. Il a refusé de quitter sa cellule pour entendre le délibéré. Nicolas Moreau est le frère du premier djihadiste français condamné au retour de la Syrie en 2014.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Dili Diko. Bonjour.
Bonjour. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé une baisse du prix de l'électricité de 10% à compter du premier bimestre 2017. Cette baisse représentera un gain de 30 milliards de francs CFA, plus de 45 millions d'euros en faveur des consommateurs. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration au Sénégal grâce notamment à la mise en place de services de centrales solaires. Le chef de l'État sénégalais a également indiqué que la Société nationale d'électricité, la Sénélec, qui accusait des pertes cumulées de plusieurs milliards de francs CFA, affiche un exercice bénéficiaire pour la troisième année consécutive depuis 2014. Et en Côte d'Ivoire, côté télécom, Côte d'Ivoire Télécom est officiellement devenue Orange Côte d'Ivoire. Ces deux sociétés viennent de finaliser une fusion par absorption selon un communiqué publié par le groupe français Orange. La nouvelle entité juridique exploitera donc les activités fixe mobile internet et mobile money sous une marque commerciale commune Orange. Et en Angola, avec une production moyenne de 1,8 million de barils par jour en 2016, l'Angola devance le Nigeria qui produit 1,5 million de barils par jour et devient le plus gros producteur de pétrole du continent.
Merci beaucoup, Dili Diko.
Merci.
On passe à la rubrique sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors le rallye Dakar 2017 a démarré aujourd'hui pour deux semaines d'aventure, n'est-ce pas ?
Les premiers concurrents se sont élancés ce matin d'Asunción au Paraguay pour rejoindre Buenos Aires en Argentine. C'est un périple de 8800 km. Et sans doute l'édition la plus dure de l'ère sud-américaine, Nathalie.
Eric, on a déjà les résultats de la première spéciale en catégorie moto et auto.
Tout à fait, Nathalie. Le Français Xavier Dosoultré a bouclé les 38,5 km du parcours en 28 minutes 20 secondes. Il a remporté l'épreuve en devançant le deuxième de 2 secondes en catégorie moto et en auto. Le Qatari Nasser Al-Attiyah a signé sa victoire en 25 minutes 41 secondes sur la même distance.
La CAN 2017, le Ghana a annoncé une préliste de 26 joueurs avec tous les cadres.
Les principaux cadres sont bien présents, les frères André et Jordan Ayou, Asamoah Gyan, Moubarak Wakaso, John Boy, Jonathan Mensah et Christian Atsu, le meilleur joueur de la CAN 2015. Côté joueur, de nouveaux visages figurent également sur la liste, notamment Ebenezer Ofori et Joseph Laoué Atama. Les Black Stars entament à partir d'aujourd'hui un stage de préparation aux Émirats Arabes Unis avant de rejoindre le Gabon le 13 janvier, finaliste en 2015. Nathalie, le Ghana évoluera dans le groupe D avec l'Égypte, le Mali et l'Ouganda.
Et qu'est-ce qu'on retient en football européen ?
Le PSG se donne l'objectif de franchir les huitièmes de finale en Ligue des Champions pour prétendre au titre. C'est une marche importante, Nathalie, car les Parisiens seront opposés aux Catalans et à leurs stars planétaires comme Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez le 14 février et le 8 mars. Pour rappel, le FC Barcelone a éliminé le PSG à 2 reprises en 2013 et en 2015 en quart de finale.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive. On vous retrouve tout à l'heure dans Sporama. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahman Dia et Nathalie Barge en votre compagnie. Et en ce début d'année 2017, VOA Afrique revient sur les événements marquants de l'année 2016 qui vient de s'achever. Avec vous, Nathalie Barge.
Oui, d'abord le Bénin. Quel bilan peut-on faire de l'année écoulée et quelles perspectives pour l'année 2017? De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin a connu un changement sur tous les plans en 2016. Cela a commencé le 6 avril par l'élection de Patrice Talon, opérateur économique, resté des années en exil parce que soupçonné d'avoir voulu porter atteinte à la vie de l'ancien président Yahi Bouni. Le chemin ayant conduit à l'élection de cet homme d'affaires a été jalonné de bien de difficultés. Indisponibilité des cartes d'électeurs, report de l'élection présidentielle, propos discutés entre candidats, campagne électorale sous fond de tension, de montage grotesque et de diffamation tous azimuts. Mais contre toute attente, l'homme d'affaires a été porté au pinacle de la gestion de la chose publique et les réalités du pouvoir se sont imposées à l'homme. En moins d'un an de gestion, certains sont arrivés à regretter le fait d'avoir confié leur vote à Patrice Talon. Aujourd'hui encore, en regardant dans le rétroviseur, ils pensent que le pays n'est pas mieux géré.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue parce que diriger un pays, ça se prépare. Le poids est complètement tombé. On nous parle de 2,462 milliards de dettes. Ça, c'est la totale, ça. C'est faux. L'audit ne doit pas être un moyen de chantage politique.
Cherté de la vie, suspension d'un bon paquet de sociétés avec à la clé plusieurs personnes renvoyées au chômage. L'année 2016 a eu un goût amer chez certains. Pour l'aspect en gouvernance, Joël Ataï-Guedegbe, le refus de communiquer opté par le gouvernement reste une difficulté majeure.
Et ce qui aura vraiment frappé, c'est à la limite son manque d'ouverture à l'information des citoyens. Et bien que des décisions aient été régulièrement annoncées et prise tantôt de manière surprenante, tantôt même de manière attendue. D'où le paradoxe aussi de cette gouvernance qui est caractérisée par une volonté de rupture avec le passé, mais qui ne met pas suffisamment en exergue les sanctions dont sont l'objet et ceux qui ont été coupables de ces actes-là.
Mais fort heureusement, peut-être, le gouvernement a saisi le dernier mois de l'année 2016 pour présenter un plan d'action, une feuille de route pouvant permettre de remettre le pays sur le rail du développement, redonner espoir aux Béninois. Le ministre d'État chargé de l'action gouvernementale, Ablaye Biotchane, en parle ici.
Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel, où nous commençons par la réforme de notre système partisan. Et enfin, sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base.
Si 2016 a été une année de grands bouleversements et de changements, 2017 n'en fera pas défection, puisque dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a rappelé aux Béninois la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre ensemble la croissance voulue. Et c'est loin d'être le discours qu'attendaient les Béninois qui crient famine, chômage et bien d'autres encore. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Niger, notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'est tourné vers le professeur Issoufou Yaha de l'université de Niamey pour discuter des perspectives 2017 au plan politique, social et sécuritaire.
Sur le plan politique d'abord, il faut s'attendre à ce que l'autorité du président de la République soit fortement contestée, que ce soit dans son camp ou du côté de la société civile et de l'opposition. Puisqu'il a dit ne plus se présenter au présidentiel, eh bien il faut que le parti essaie d'asseoir une autre autorité. Une guerre de succession semble avoir commencé et le président actuel du parti, M. Bazoum, est en train de poser des actes de nature à faire de lui le maître ou le futur maître de la situation. Donc, M. Bazoum est en train d'effacer M. Brice Irafeni, de l'évincer pour véritablement
puisque dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre est le chef de la majorité. Or, M. Brigi n'est pas le chef de la majorité. Le vrai chef, c'est M. Bazoum. Je pense que peut-être ça sera la consécration pour lui sur le plan politique. Sur le plan social, tout dépendra de la mobilisation des ressources par le gouvernement. S'il n'arrive plus, comme ça a été le cas en octobre, novembre, décembre, à honorer les salaires en temps et en heure, je pense qu'il aura les syndicats, il aura surtout les enseignants. Et je pense qu'il y a déjà un trimestre de raté. Si jamais, à partir de février, vous savez, traditionnellement, c'est une montée de la contestation, on rate encore un autre trimestre, c'est l'année qui va malheureusement être compromise. Et ça, je crois qu'il aura la population, il aura les parents, il aura les élèves et étudiants. Et ça, je pense que ça peut être préjudiciable à la gouvernance actuelle. Maintenant, sur le plan sécuritaire, je pense qu'il faut s'attendre Boko Haram, quoi qu'on dise. Le Nigeria est monté en puissance. Il dit avoir pris la maîtrise de la possession même ou le contrôle de la forêt de Sambisa. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que les attaques aussi se déplacent puisque le centre de commandement et le centre même des opérations va se déplacer. Je pense qu'on va avoir des petites cellules autonomes quelque part, pourquoi pas sur le territoire nigérien, il faut s'attendre à cela. Et puis au Mali, avec les djihadistes, je pense qu'ils n'ont pas dit aussi leur dernier mot, il faut s'attendre à quelques attaques sporadiques et meurtrières aussi.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. Au Tchad, 2016 aura été une année sombre quant à la question sociale. Fonctionnaires, retraités, enseignants, étudiants, bref, la plupart des couches sociales ne cachent pas leur pessimisme, nous dit notre correspondant André Kodmajingar.
L'avenir du Tchad en 2017, c'est un chaos total. Les enfants ne partent pas à l'école. Dans les hôpitaux, c'est fermé. Moi, je dois voir que les Tchadiens vont peut-être vider le Tchad pour aller ailleurs.
Lui, c'est Balanyanga Jonathan, coordonnateur national des maîtres communautaires. Une couche qui semble être abandonnée par le pouvoir public. Car à ce jour, les maîtres communautaires accusent 30 mois d'arriérés de subsides. Et pourtant, leur prestation n'est pas à négliger dans l'évolution du système éducatif tchadien. L'inspecteur du Trésor, Mohamed Nouri Bédou, doute du lendemain meilleur pour les Tchadiens.
Les perspectives économiques ne paraissent pas encourageantes. On prend les crédits qui ne sont pas utilisés, on les régularise avec l'argent pris en dépenses avant ordonnancement. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Si le gouvernement continue les mêmes tergiversations, 2017 va être encore plus sombre que 2016. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous prédisons une implosion. Il faut que cette gouvernance change. Sinon, nous allons au-devant des perturbations sociales très difficiles.
Les syndicalistes, quant à eux, exigent un dialogue franc et sincère afin de booster l'économie en 2017. Barka Michel est le président de l'Union des syndicats du Tchad.
Si le gouvernement peut nous sortir de cette situation, nous avons des propositions à lui faire. Beaucoup.
Entre autres, essayer de mettre de l'ordre dans les régies financières. Les gens qui sont morts, qui continuent à être avancés et payés. Il y a des fonctionnaires qui sont là sans diplôme. Les gens qui, au nom des accords militaires, sont rentrés. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas obliger le gouvernement à couper les salaires des fonctionnaires.
2017, comme prédit le syndicaliste, s'annonce encore plus difficile pour les travailleurs tchadiens, du moins ceux qui vont oser aller en grève pour revendiquer leurs droits. À l'issue d'un conseil de cabinet tenu le 22 décembre 2016, un projet de loi portant modification de la loi numéro 008 du 9 mai 2007 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans le secteur public a été adopté par les membres du gouvernement. Lequel projet de loi vient d'être voté ce 30 décembre 2016 à l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés du parti au pouvoir. Abdelkrim Seyd Bouch, ministre de la fonction publique, salue l'acte posé par les députés de la majorité.
La modification qui a été faite essentiellement au niveau de l'article 15, les syndicats peuvent faire la grève, mais il ne faudrait pas que ça soit des grèves sèches, comme ce que le gouvernement subit actuellement. Mais à partir d'une certaine période, c'est les initiateurs de grève qui vont assumer les charges salariales, en quelque sorte. Et c'est le vœu du gouvernement de pouvoir sortir de cette crise.
Bonne et heureuse année 2017 à tous. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Guinée-Bissau, 2016 a été marqué par une série de désaccords profonds entre le président, son premier ministre et son propre parti. De Bissau, notre correspondant Noah Mankali.
L'an 2016 était une continuation de la crise politique implantée en 2014 lors du dernier congrès ordinaire du PSGC et puis aggravée en 2015 avec la démission du gouvernement de Domingos Simões Pereira, maintenant avec des crispations personnelles et politiques pour atteindre le pire, reléguant à l'arrière-plan la situation politique et sociale grave le pays. Les écoles publiques ont été fermées pour la plupart de la première période en raison d'une grève générale des enseignants. À celle-ci s'ajoutent les détériorations des équipements et des services de santé, la suspension de nouveaux projets d'infrastructures routières et l'activité législative paralysée. Même dans le football que les Bissau-Guinéens aiment tellement, le championnat a été interrompu à mi-chemin en raison de la prétendue absence des fonds alloués par le gouvernement. La Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains a émis un avertissement au début du mois de décembre que la crise pourra empêcher le pays de bénéficier des soutiens ou des appuis des partenaires au développement en raison de l'absence d'un gouvernement légitime pour établir ses appuis. C'est toujours un retour habituel au point de départ en Guinée-Bissau où jamais un gouvernement termine son mandat respectif jusqu'à la fin de sa législature. D'autre part, l'instabilité fait qu'il y a moins de contrôle des biens publics et la Ligue des droits humains a affirmé que la corruption a augmenté dans l'appareil de l'État. Cependant, cette crise s'est encore approfondie entre le président José Mario Vaz et le PSGC avec la démission du deuxième gouvernement dirigé par le vétéran Carlos Correa en tant que premier ministre de la législature. Dans les rues de la capitale Bissau, il y avait eu des manifestations organisées qui ont réuni autour plusieurs centaines de personnes pour demander la démission du président José Mario Vaz, mais finalement interdite et même opprimée par le gouvernement de la nouvelle majorité, chose qui a été considérée par la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme comme un signal de recul dans le domaine de la liberté de manifestation. L'organisation a aussi dénoncer la tentative d'imposer un nouveau régime dictatorial avec la censure sur les manifestations de la radio nationale et de la télévision de la Guinée-Bissau pour faire taire la population. Seul le but de l'attaquant Louzo Bissau-Guinéen, Éder Gomis, qui a fait du Portugal le nouveau champion du football européen, et l'histoire de la qualification de la Guinée-Bissau à la Coupe d'Afrique des Nations semble sauver un peu l'année 2016. Les Bissau-Guinéens n'ont pas perdu l'espoir et espèrent que l'année 2017 apportera quelque chose de différent à celle de l'année 2016. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Sanane Bérin, et c'est la fin donc de cette édition. Michel Joseph était à la mise en onde, à la présentation c'était Nathalie Barge et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet VOA Afrique et voaafrique.com pour plus d'informations 24h sur 24. Bonne année à tous.